Donc, le ciel. Quand je disais à des personnes que j'allais prêcher sur le ciel, les gens disaient, c'est comme si j'avais une drôle de réaction. Le ciel, qu'est-ce que tu as à dire sur le ciel, me semble? C'est évident. Mais je pense qu'on parle beaucoup comment aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel, mais on parle pas beaucoup du ciel comme tel. Okay? Et quand j'ai commencé à étudier le sujet, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses sur le ciel. On ne pourra pas voir tout ce matin. Et je peux peut-être avoir une autre, peut-être deux autres prédications sur le ciel. Ça ne sera pas de suite, c'est sûr. Le prochain va aller quelque part au mois de septembre. Moi, je ne suis jamais allé au ciel. Vous autres non plus. Je ne pense pas qu'il y ait personne ici qui soit allé au ciel. Mais on va regarder ce que la parole de Dieu a à nous dire sur le ciel. On ne peut pas en savoir plus, mais qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Mais il y a des choses, il y a des indications qui nous donne un avant-goût de qu'est-ce que va être le ciel. Vous avez même vu dans le feuillet, le petit feuillet petit bulletin jaune, là, Hélène a mis un petit extrait sur la Nouvelle Jérusalem. On ne parlera pas de la Nouvelle Jérusalem aujourd'hui, mais un petit peu plus loin, on va en parler. Vous pouvez lire ce texte-là, ça va vous préparer pour un futur message. Levez la main ceux ici qui sont certains d'aller au ciel. Voilà. Amen. Amen. Maintenant, quels sont ceux qui ont super hâte d'aller au ciel? OK. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont hésité? On hésite un peu parce que le ciel, c'est jusqu'à un certain point de l'inconnu. Sur la terre, on sait un peu qu'est-ce qu'il y a sur la terre, mais le ciel, on ne le sait pas encore, puis on est un peu de l'inconnu, même si on sait que ça va être mieux, ça va être plus beau. Et il y a aussi l'instinct que Dieu nous a donné, qui est l'instinct de survie. C'est vrai, l'instinct de survie, on ne veut pas mourir. C'est normal. C'est normal. Okay? Et on se souvient de la chanson de Petula Clark, ben moi je m'en souviens, peut-être pas tout le monde, qui disait « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne veut mourir. » C'est ça. Donc, c'est un peu ça. On va aller au ciel, mais mourons le plus tard possible, puis on va de l'autre côté, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a. Donc, j'ai lu un livre, bien, je l'ai lu, j'ai commencé à le lire, et quand j'ai commencé à le lire, ça m'a donné le goût de parler sur le ciel. C'est un livre de M. Daniel Anderson qui s'appelle, il est traduit prochainement en français, qui va s'appeler « Une meilleure patrie ». Et en regardant ça, j'ai vu que notre vision du ciel changeait beaucoup notre façon de vivre sur la terre, notre façon de vivre nos épreuves. Et si on a vraiment une bonne conception du ciel, ça va changer beaucoup de choses. OK? Et on va lire un texte que vous avez ici, qui est mentionné, 2 Corinthiens 12, 2, 4. C'est l'apôtre Paul qui est allé à qu'est-ce que lui appelait le troisième ciel. On va voir plus tard c'est quoi le troisième ciel, mais pour tout de suite, on va lire le texte. Je ne l'ai pas sur PowerPoint, ça, vous allez lire dans vos Bibles. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 et 4. La plupart ont tourné, vous avez vu le PowerPoint. Donc, dans ce contexte-là, Paul parle un peu malgré lui d'une vision qu'il a eue. Parce qu'à Corinthe, il y avait des faux prophètes qui disaient avoir eu des visions et des révélations. Et juste le fait qu'ils disaient qu'il y avait eu des révélations, des visions, les gens étaient... Il les écoutait là, sans aucune... Moi, je dirais bien, il était comme à genoux en avant d'eux. Là. Tout ce qu'il disait, les gens l'avalaient. Oh, eux autres, ce sont pratiquement des dieux, ils ont vu des visions. Et c'était très populaire à Corinthe à l'époque, mais la plupart étaient des imposteurs. Et Paul n'a jamais aimé parler de ces révélations, mais là, il dit, si c'est ça qui peut vous ramener, moi aussi... J'ai eu une vision, j'ai eu des révélations. On peut lire le verset 1. On va commencer là. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Donc, Paul, il dit, j'aime pas ça, là, parce qu'il faut que je me glorifie en vous disant que j'ai vu des choses merveilleuses. C'est pas bon, mais il faut que je le fasse si je veux vous regagner, si on peut dire. Verset 2. Je connais un homme en Christ. Ici, même s'il dit qu'il connaît un homme, il parle de lui. Question d'humilité, là. Je connais quelqu'un qui a fait telle chose, mais il parlait de lui. OK? Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, il ne dit pas qu'est-ce qu'il a vu, mais il dit qu'est-ce qu'il a. Il a entendu des choses, mais il ne dit pas quoi. Ça avait l'air assez spécial. Si vous voulez, on va prier avant d'aller plus loin, demander au Seigneur qui nous dirige dans cette étude-là. Notre Dieu, on te remercie encore pour toutes les richesses qu'il donne dans ta parole. Merci aussi de nous donner le temps de l'étudier, de nous donner le temps de mettre à part un temps dimanche matin pour vraiment scruter ensemble de ce que tu as à nous dire. Je te prie, Seigneur, que tu sois avec ton serviteur et que tu m'aides à dire droitement ce que tu as mis sur mon cœur et ce que tu veux que je dise. Je te prie que les gens soient édifiés. Et merci, Seigneur, d'être parmi nous et merci d'être présent encore ce matin. Amen. Amen. On va commencer avec les fausses conceptions au sujet du ciel. Parce que lorsqu'on parle du ciel, surtout dans le monde des non-croyants, on voit un peu ce que les films nous présentent et les livres. Des beaux nuages, des anges qui jouent de la harpe et une petite fumée, puis la musique classique, ling, 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 c'est beau, beau. Mais là, après un million d'années, peut-être que, on va dire, ben, au moins on n'est pas en enfer. Hein? C'est moins pire que l'enfer. Et donc, si c'est la notion qu'on a du ciel, c'est sûr qu'on dit on est aussi bien resté sur la terre. J'ai rien contre la musique classique. J'en écoute à l'occasion. Une petite anecdote, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui sont allés au stationnement Badeau, au centre-ville, quand on descend dans les cages d'escalier, il y a de la musique classique. C'est pas là pour nous flatter les oreilles. C'est qu'il y avait un problème des jeunes qui flânaient, qui prenaient de la drogue, de la boisson, dans les cages d'escalier. Fait qu'ils ont mis de la musique. Mais j'essaie de voir où on pouvait voir les haut-parleurs, on les voyait pas. Ça fait qu'il n'y a plus de jeunes qui sont là. C'était songé. Je crois que ça venait de Sherbrooke, c'est l'idée venait de là. Et à la longue, se sont tannés d'écouter ça. Et si jamais ça marche pas, si jamais la musique classique marche pas, moi j'ai pensé à enregistrer notre groupie quand on chante, pas d'accompagnement. Certain que ça va marcher. Mais quand on a l'accompagnement, c'est super, c'est céleste. C'est pour ça qu'on a hâte que François revienne. Là. Ouais. Donc, par contre, pour certains, l'enfer semble être plus attrayant que le ciel. C'est grave, hein? Parce que ça va être le party là-bas, la bonne musique, musique d'enfer. Ça va brasser. Donc, fausse conception du ciel, fausse conception de l'enfer. OK? Et ces fausses conceptions-là nous donnent le goût, de se mettre rester sur la terre le plus long possible, puis d'en profiter. Combien de gens ont dit ça? La vie est courte, il faut en profiter. Et aussi, on a entendu parler de la vie après la mort. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Il y a un livre, plusieurs livres écrits là-dessus, La vie après la mort, où on parle des gens qui sont morts cliniquement et qui sont venus pour après. Waouh, c'est du service un matin. Justement, il y avait un chien dans la gorge. Merci beaucoup. C'est le service du groupe Vie, ça. Merci beaucoup, Michel. Donc, vous avez entendu parler de ça, la vie après la mort. On parle de quelqu'un qui est mort cliniquement, sous respirateur artificiel. On dit que le cerveau était mort. Puis les personnes qui reviennent disent, « Ah, on était dans un état de bien-être. On s'en allait, il y avait un tunnel, il y avait de la lumière. Il y avait un être de lumière qui nous accueillait. » Et tout ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de témoignages comme ça. Et je crois que ces gens-là, c'est ça qu'ils ont vu, c'est ça qu'ils ont expérimenté. Je ne peux pas nier ça. Sauf qu'ils sont venus. Donc, ils sont Ils n'étaient pas morts, comme on dit. Okay? Donc, ils ne sont pas morts. Ils n'étaient pas vraiment morts. Ils n'étaient pas rendus de l'autre côté de la clôture. Ils étaient capables de revenir encore. Et scientifiquement, là, ils ont prouvé que lorsque le cerveau manque d'oxygène, beaucoup, 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 il y a ces réactions-là. De voir bien-être, être de lumière, voir des choses comme ça. C'est que le cerveau, il manque de lumière et il imagine toutes sortes de choses. OK? Et qu'est-ce qui a été dit aussi médicalement, c'est que ces personnes-là n'étaient pas réellement mortes. S'ils étaient mortes, ils ne seraient pas revenus. Okay? Ils ont été dans le coma, mais un coma qui était vraiment profond, suffisamment pour qu'il y ait de la misère qu'il ne respirait plus, donc le cerveau privé d'oxygène. Personnellement, j'ai été dans le coma une semaine, pas la semaine dernière. J'avais 5 ans, j'ai eu un accident d'automobile, un mois à l'hôpital, dans une semaine dans le coma. Et je n'ai pas vécu cette chose-là. Là. Même si à 5 ans, je me rappelais de certaines choses. Parce que probablement que mon cerveau n'a pas dépourvu d'oxygène. Je me souviens, par exemple, que j'entendais les gens qui parlaient. J'entendais ma mère qui disait « Yvan, me reconnais-tu? Yvan, me reconnais-tu? » Et moi, j'avais l'impression que je lui disais « Oui, je te reconnais. » Et quand je revenais à moi-même, je te le disais, je te reconnaissais, mais je n'avais rien. Mais j'étais vraiment, je les entendais. Mais je n'ai pas eu de phénomène spécial. Donc, puis un autre aussi qui est allé, lui, il est vraiment mort, parce qu'il sentait déjà. Qui? Lazare. Lazare était 4 jours dans le tombeau. Sa sœur a dit, sortez-les pas ou ne levez pas la pierre, il sent. Il était mort. OK? Mais Lazare est revenu à la vie. C'est un des seuls. Bien, on sait que quand Jésus est mort sur la croix, il y a des morts qui sont sortis des tombeaux, mais on n'en sait pas plus sur eux autres. Ici, Lazare, on sait que lui, Jésus l'a ressuscité. Et qu'est-ce que Lazare... On peut regarder le prochain PowerPoint, le premier. Donc, c'est l'histoire un peu de Lazare, pas la résurrection, mais après. Donc, on dit, la foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là, c'est-à-dire Jésus, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Donc, c'était rendu une attraction, Lazare. Waouh! Tout le monde savait qu'il était mort, parce qu'il restait dans un petit village pas loin de Jérusalem. Ça s'était transmis. Puis là, il était vivant, ça se peut-tu? Verset 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc, à cause de Lazare, les gens croyaient en Jésus. Donc, Lazare n'a pas dit, « Ah, je suis allé l'autre bord, moi. Oubliez ça, Jésus, là. Il y a d'autres choses l'autre bord que ça. » Non, il est allé 3-4 jours l'autre côté. Quand il est revenu, d'après son témoignage, les gens suivaient Jésus. Lui, il est allé vraiment de l'autre côté. Donc, son témoignage faisait que les gens croyaient en Jésus et il n'a pas démenti le témoignage de Jésus. Et c'est la seule personne qu'on connaît qui rapportait qu'il est allé mort, qui est vraiment ressuscité et qui a parlé, qu'on a vu vivre après, à part Jésus. OK? Est-ce qu'on a hâte d'aller au ciel? Dans notre vision d'Église, on a par le Saint-Esprit, ensuite on a tous les verbes, abonder, amener, aimer, etc., annoncer. Et on termine en anticipant le retour du Seigneur. Donc, tout ce qu'on fait sur la terre, c'est dans un contexte qui est celui qu'on anticipe que Jésus-Christ revienne. Et c'est un peu le but du message, c'est que d'être dans l'anticipation de son retour, l'anticipation de ce qui va se passer au ciel, l'anticipation de ce qu'on va vivre avec lui pour l'éternité. Okay? Lorsque, supposément, je planifie un voyage 2 mois dans un pays lointain, en Europe, Chine, quelque part comme ça, et avant de partir, qu'est-ce que je vais faire, ou plusieurs mois avant, je vais m'informer, commencer là-bas, pour pouvoir en profiter au maximum, puis savoir un peu qu'est-ce qui m'attend. Donc, je vais lire des livres, je vais regarder les forums sur Internet, regarder des photos, parler avec des gens qui sont allés. Ah oui, comment c'était? Qu'est-ce que je devrais faire? C'est quoi le mieux là-bas? Ah oui, il y a ça! Ah, oh, super! J'ai hâte d'y aller. Donc, plus je suis informé de ma nouvelle destination, plus j'ai hâte d'y aller, plus j'ai de l'anticipation, plus je suis enthousiaste. Même chose pour le ciel. Plus on en connaît sur le ciel, plus on a hâte d'y aller, plus on est enthousiaste d'y aller, on anticipe cette chose-là. Mais c'est quoi qui va nous intéresser au ciel pour l'éternité? Il y a des choses sur Terre qui nous intéressent un mois, deux mois, puis après ça, ça ne nous intéresse plus. Mais là, supposément après le premier million d'années là, qu'on est tanné, tu sais, je sais pas, mais ça va prendre des choses pour nous, je dirais pas distraire, mais qu'est-ce qui va nous absorber tellement que tout le reste de l'éternité, tout le reste du temps, on va être content, joyeux, et on n'aura jamais le goût de revenir après plusieurs millions d'années. Jésus, la réponse est là. Jésus est celui qui va nous intéresser, nous attirer, nous combler. Et Jésus est là et il va, comme sur la terre, il va nous donner aussi autre chose que lui, des choses qu'on va pouvoir faire, toucher, des gens qui vont pouvoir parler, des relations et tout ça. Le désir d'aller au ciel, souvent, c'est pour plusieurs personnes, c'est pour échapper aux souffrances. Quelqu'un qui souffre d'une maladie grave ou quelqu'un qui est tanné de vivre, le ciel, c'est d'échapper aux souffrances. On ne souffrira plus au ciel. Donc, le désir d'aller au ciel n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a là-bas, l'anticipation de ce qui va être beau là-bas, mais c'est « ouf, on va être fini ici ». On passe à d'autres choses. Okay? Donc, c'est une épreuve à laquelle on veut éviter. Et l'idée qu'on se fait du ciel, on ne sait pas, mais au moins, on veut quitter cette terre. Et c'est ça qui amène aussi les suicides. Hein? Personne ne dit « la mort semble plus facile que la vie, plus douce que la vie, donc je m'enlève la vie ». Je ne recommande pas ça, mais parce que le Seigneur dit qu'il peut nous soutenir et il va nous soutenir. Et le ciel, c'est plus que l'espérance d'avoir une meilleure vie. Le ciel, c'est le centre du plan de Dieu pour nous. Le centre du plan de Dieu pour chacun de vous, c'est une dimension d'éternité. Ce n'est pas le petit bout de quelques années qu'on va être sur la terre. Ça va être toute l'éternité. Et le centre du plan de Dieu, c'est vraiment de nous amener au ciel en sa présence, d'être avec lui. OK? Et c'est ça qu'il veut. C'est à ça qu'on est appelé. OK? Je parlais tout à l'heure des gens qui sont éprouvés, qui veulent aller au ciel. Et ça va arriver que lorsque l'épreuve passe et que les beaux jours reviennent, le désir d'aller au ciel, il s'en va. OK? Parce que souvent, on est trop préoccupé par ce qui se passe ici sur la terre, par nos besoins, pour être préoccupé du ciel. Parce qu'on aime bien la vie sur la terre. C'est beau, la vie sur la terre. C'est sûr qu'il y a des moments difficiles, mais c'est Dieu qui a créé tout ça. C'est sûr qu'il y a une malédiction à cause du péché. La vie n'est pas facile, mais les choses que Dieu a créées, qui sont sur la terre, les relations et tout ça, c'est quelque chose qui est beau et qu'on aime, qu'on veut en profiter et on doit en profiter. OK? Donc, il y a vraiment des belles choses, mais il ne faut pas s'accrocher à cette terre. S'accrocher à cette terre. Nous sommes des citoyens du ciel. Okay? Donc, nous sommes des citoyens célestes. Nous ne sommes pas uniquement des trifluviens, nous sommes des célestins. Okay? Nous sommes des célestins. Regardons le prochain verset dans Philippiens, chapitre 3, verset 20-21. Pour nous, notre cité est dans les cieux. Donc, même si on demeure sur la terre, notre pays, notre cité, notre port d'attache, notre vraie ville, c'est dans les cieux. Supposément que je m'en vais en voyage en Europe, dans le sud. Quelqu'un me dit, d'où tu viens? Je viens de Trois-Rivières. Moi, je suis un gars de Trois-Rivières. Ah oui, Trois-Rivières. Donc, ma cité, c'est Trois-Rivières. Quand je suis en dehors. Alors que là, je suis en dehors de ma cité. Je suis en dehors. Où ta ville? Moi, c'est le ciel. C'est là ma cité. OK? Donc, pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est où Jésus-Christ actuellement? Il est dans les cieux. Et il va venir nous chercher. C'est de là qu'on l'attend. OK? qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux? Heureusement, ben, le corps humilié ou le corps qui vieillit, qui est malade, qu'on a actuellement, va être transformé, heureusement. Et c'est une espérance qu'on peut avoir aussi. Parce qu'il va rendre notre corps semblable à son corps glorieux lorsque lui a ressuscité. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses, dans le sens que, des fois, on trouve ça, comment il va faire pour nous transformer, pour nous ressusciter. Il a tous les pouvoirs, il peut faire toutes choses. Donc, ce n'est pas moi de décider qu'il va être capable ou pas, c'est lui qui l'a dit qu'il serait capable. Donc, il va nous transformer parce qu'il a le pouvoir de le faire. OK? Donc, nous sommes des citoyens du ciel. Dans le cadre de mon travail, je signe des fois des certificats de vie. C'est quoi cette affaire-là? Ce sont surtout pour des gens qui, toujours pour des gens qui viennent habituellement d'Europe, et pour obtenir, continuer de bénéficier de leur pension, régime de retraite, ils doivent venir à l'hôtel de ville pour qu'on certifie qu'ils sont vivants. Parce que supposément, la personne a un fonds de pension en France ou deux, ben, ils veulent savoir si la personne est toujours vivante, parce que si elle n'est plus vivante, c'est sûr qu'ils vont couper les vivres. Et à tous les 6 mois ou à tous les ans, ça dépend des régimes de pension, les gens viennent, ils viennent à l'hôtel de ville. Puis dans mes fonctions, moi, je suis assistant greffier, donc ça prend le saut, puis je certifie que la personne est vivante. Puis pas besoin d'être médecin, hein? Tu sais, tu regardes, puis... C'est évident. Et quand je signe le document, je leur demande leur citoyenneté. Et puis c'est toujours là, je demande leur nom, date de naissance, tout ça. Mais c'est toujours là que citoyenneté, je suis toujours un petit peu embêté, parce que des gens qui sont ici, mais souvent, peuvent avoir 2 citoyennetés, canadienne et aussi, je vous donne un exemple, française. Et la personne va dire, bon, française, voyons. OK, française. Parce que quand ils remplissent le formulaire pour la France, c'est sûr qu'ils mettent français, ils ne mettront pas canadien. Mais quand ils vont remplir leur formulaire pour avoir leur pension de retraite au fédéral, au Canada, ils vont mettre français et canadien. OK? Donc, la citoyenneté est en fonction d'un peu de qu'est-ce qu'on veut avoir. Et il y en a qui disent, mais les deux, j'ai les deux. Comme nous, on a un peu les 2 citoyennetés, dans le sens qu'on est terrien et célestin. On est davantage célestin. Et j'ai eu un monsieur la semaine dernière, c'est vrai que c'était un ancien européen avec son accent. J'ai dit, votre nationalité, bien, canadien, voyons donc. Ça fait 45 ans que je suis ici. Bien, c'est OK. Je ne peux pas le deviner. Mais lui, il était fier d'être canadien. Fier d'être canadien. Et même si c'était pour se faire une retraite en France, ben, je suis un Canadien, puis ils ne me couperont pas pour ça, pas de problème. OK? Donc, nous aussi, soyons fiers de ce que nous sommes. Lui avait changé de citoyenneté, et nous, on a changé de citoyenneté aussi. Quand on a accepté le Seigneur, on est devenu des enfants de Dieu, des citoyens des cieux. OK? Et dans le monde, comme quand je remplissais ces formulaires-là, je vois les gens, il y en a, bon, quand ça fait leur affaire, ils mettent telle citoyenneté, quand ça fait leur affaire, ils mettent une autre. Nous, quand ça fait notre affaire, on agit comme des gens du monde. Quand ça fait notre affaire, on agit comme des chrétiens. Quelle citoyenneté on utilise dans nos affaires, dans nos rapports d'impôts? Est-ce qu'on est toujours des citoyens des cieux dans les affaires, dans nos relations? On peut aller voir le prochain verset. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, ressuscité, on n'est pas ressuscité encore parce qu'on n'est pas mort physiquement, mais nous étions morts spirituellement et nous sommes ressuscités spirituellement. Donc, notre vraie vie, elle est spirituelle. Nous sommes ressuscités, nous avons une vie avec Jésus-Christ. Donc, si on est ressuscité avec lui, et lui habite en haut, nous aussi, on doit chercher les choses d'en haut, et non pas uniquement les choses de la terre. C'est sûr qu'il faut s'occuper des choses de la terre. On a une famille, des enfants, il faut travailler, puis tout ça, on n'a pas de joie. Mais il ne faut pas que notre idée soit d'accumuler des biens, ou d'avoir du succès, ou de la gloire, ou des choses que le monde offre. Donc, on a vu les fausses conceptions sur le ciel, on a vu un peu ce qui était le ciel au début, et on a vu notre perception du ciel peut changer notre vie ou notre façon de vivre. Et c'est plutôt ça que je vais insister là-dessus. Notre perception du ciel, elle est importante. Donc, notre compréhension ou notre incompréhension du ciel va déterminer qu'est-ce qui est le plus important pour nous dans la vie. Et c'est faux de dire que c'est pas grave, notre conception du ciel. Une bonne compréhension du ciel, c'est pas un luxe pour un enfant de Dieu, c'est une nécessité de vraiment comprendre qu'est-ce qui nous attend ou d'avoir une vision du ciel, non pas avoir une vision uniquement terrestre. Donc, ma perception du ciel va avoir une influence sur mes choix, mes décisions, mes visions. Ma perception de la vie va changer mes attitudes. Je donne quelques exemples. Supposément, il y a un de nos proches qui meurt, qui est sauvé, un chrétien. Bon, on va pouvoir mieux composer avec la disparition de notre enfant, de notre conjoint, conjointe, en sachant qu'on va le revoir ou la revoir bientôt. Si on ne sait pas ça, on dit que le ciel n'existe pas, puis quand on meurt, c'est fini, ça va être dur. C'est dur, mais c'est fini. Mais si on sait, pas juste si on s'imagine, là, mais si on sait, parce que c'est la réalité, c'est la vérité, qu'on va le revoir, ben c'est plus facile à accepter. Et on sait que la personne qui est décédée, elle est mieux. Elle est mieux qu'elle l'était. C'est sûr que ça nous fait mal en dedans, parce que c'est sur nous qu'on souffre plus que la personne qui est partie. Mais ça nous console de savoir qu'on va les revoir et que la personne ne souffre plus. Donc, ça change mon attitude. Aussi, on l'a effleuré tantôt, on peut composer mieux avec les souffrances qu'on vit en sachant que c'est temporaire. Ça nous paraît long, les souffrances, ça finit plus, puis après une affaire, c'est un autre, puis un médicament qui ne marche pas, puis de l'affaire, puis c'est jamais fini. OK, puis plus on vieillit, plus il va en avoir. Donc, mais c'est temporaire. C'est temporaire. OK? Regardons le verset suivant. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Découragez-vous pas. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, c'est un mot fort, hein? Notre homme se détruit. Quand on est jeune, on se construit, un moment donné, on commence à se détruire. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Donc, il y a possibilité que notre homme ressuscité, notre personne, notre vraie personne se renouvelle. Car un moment de légère affliction, donc pas les personnes de légère affliction, il parle d'une petite épreuve ici, produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est dur à comprendre, mais c'est ça. Une épreuve va produire de la gloire, de la louange, au-delà de toute mesure. C'est-à-dire que Paul ne pouvait même pas la mesurer, la gloire qui est attachée à l'épreuve qu'on vit. Tellement c'est grand. C'est dur à comprendre, mais c'est ça pareil. Il y a une gloire qui est rattachée à ça, aux souffrances qu'on va supporter en disant « Oui, Seigneur, c'est là, je l'accepte, puis je sais que ça va passer, puis on va être avec toi dans la gloire là, pour l'éternité par après. » Verset 18, « Aussi regardons, nous regardons. » Donc, le regard fixé, nous regardons. Non point aux choses visibles, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les choses invisibles sont éternelles. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, ça peut passer. Les choses invisibles, elles vont demeurer. Okay? Et on va en parler un petit peu plus tard, lorsqu'il va y avoir la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre. Ça ne veut pas dire que tout va être spirituel. Okay? Parce que si Dieu a dit qu'il allait avoir une terre, c'est une terre. Comme quand je dis « change de taux », une nouvelle auto, c'est encore une auto, puis pareil. Donc, ça va être une terre renouvelée. Est-ce que ça va être la même refaite ou ça va être, probablement qu'elle va être détruite, ça va être une nouvelle terre, mais il va y avoir des choses encore, pour avoir un nouveau corps aussi. Donc, ça ne sera pas complètement tout spirituel, je ne dirais pas flayé, là, mais immatériel, mais il va y avoir vraiment des choses de la vraie vie. Au ciel et sur la nouvelle terre. Donc, c'est pas complètement... ça se rapporte à des choses qu'on connaît déjà. Parce que Dieu a créé la terre, il y a eu la malédiction à cause du péché, mais ce que Dieu a fait dans Genèse, il dit, Dieu vit que cela était bon. Donc, la matière n'est pas mauvaise comme telle. Dieu a dit que cela était bon. C'est qu'est-ce qu'on a fait avec qu'on l'a rendu mauvaise. OK? Ensuite, si on a une vision du ciel, en sachant que notre trésor est au ciel, nos difficultés financières vont prendre une autre dimension. Ah, jamais l'argent, on arrache tout le temps, j'ai pas ce que je veux, garde mon voisin. OK? Donc, si notre véritable trésor est dans le ciel, on ne sera pas porté à accumuler, à avoir beaucoup de choses, je dirais inutilement, des choses qu'on n'a peut-être pas besoin. Parce que, pour se sécuriser, parce que notre vrai trésor est au ciel. Excusez. Je vais revenir avec l'histoire du... Pas revenir, mais je vais vous parler de l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche, il est allé voir Jésus, il dit, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle? » Bon, Jésus a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon maître, etc. » Ensuite, il dit, « Suis les commandements. » C'est quoi les commandements? Jésus a cité, « Tu honoreras ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même, etc. » Le jeune homme riche, il dit, « J'ai respecté tout ça, qu'est-ce qui me manque? » Donc, il savait qu'il y avait... respecter tous les commandements, mais il lui manquait encore quelque chose. Jésus, pour voir le fond de son cœur, lui a dit, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. » Et la réaction du jeune homme, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. OK? Pourquoi est-ce que... Je ne sais pas, je vais me retrouver, là. Pourquoi est-ce que le jeune homme riche était triste? Il n'a pas cru Jésus, ce que Jésus lui disait. Il avait de grands biens. Et pour lui, son trésor était sur la terre. Qu'est-ce qu'il avait sur la terre? C'était réel, il l'avait. Ça, il l'avait. Il n'a pas besoin, il l'avait, moi je dirais bien. C'était acquis, ça. Il savait qu'il l'avait déjà. Il pouvait en profiter tout de suite, c'était palpable, alors que le trésor dans le ciel que Jésus lui présentait, c'était flou pour lui, c'est un trésor dans le ciel. Donc, il voulait en profiter tout de suite. Et s'il n'a pas accepté ce que Jésus lui proposait, c'est à cause de sa fausse conception du ciel. Il ne savait pas, il n'a pas cru ce que Jésus lui a dit au sujet du ciel, qu'il y aurait un trésor dans le ciel s'il vendait tous ses biens. Il distribuait l'argent aux pauvres. Donc, notre conception du ciel a une grande, grande, grande importance. On peut regarder le prochain verset. Matthieu 19, verset 6. Matthieu 6, 19, 20. « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel » où ni le ver ni la rouille ne détruit pour détruire, ni cambrioleur pour forcer, serrure et voler. Quand on regarde nos maisons, des fois, ah, c'est la peinture écaille, il y a tout un tas de choses à réparer. Et c'est ça ici, sur la terre, tout ce qu'on peut accumuler. Comme je regardais la maison de mes parents étaient fiers de leur maison sur le bord de la rivière, un beau grand terrain. Aujourd'hui, la maison est démolie, il y a eu des inondations, il reste juste la plaque où était le foyer, le gros bloc de béton. Et c'était leur, je ne dirais pas leur gloire, mais ils mettaient beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les choses de la terre sont passagères. Le fait d'avoir les yeux fixés davantage vers le ciel, ça purifie nos motivations. On fait les choses davantage par amour pour le Seigneur. Parce que la valeur de nos bonnes œuvres dépend pas de leur nombre ni de leur excellence, mais de l'amour qui les a amenés, qui nous a motivés à aller faire ces œuvres-là. Et si on fait des œuvres uniquement pour ce que les autres vont penser ou pour ce qu'on va en retirer sur terre, ça nous donne rien. Donc l'amour est le principal ingrédient qui va faire que nos œuvres vont être acceptées ou non au ciel quand on va arriver devant le tribunal de Christ. Okay? Regardons un autre verset dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. « C'est pourquoi ne portez pas de jugement sur personne avant le moment fixé. » Donc, ce n'est pas nous qui allons décider, c'est Jésus. « Attendez que le Seigneur vienne. » C'est lui qui va juger. « Il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité et révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. » Donc, les hommes vont savoir pourquoi on a fait telle chose. Ils vont révéler les intentions de nos cœurs. Okay? Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Donc, Dieu va nous louer pour ce qu'on a fait pour lui, les œuvres que même lui avait préparées pour nous. On n'aura aucun mérite, mais il va nous donner de la louange pour cela. Okay? Donc, si on a une vision céleste, nous sommes des célestins, et ça aide à purifier nos motivations. Dernière chose que ça peut faire, c'est que ça nous protège du péché. Donc, si on vit pour le ciel, on va vivre moins pour la terre. On ne tournera pas, mais dans Colossiens chapitre 3, verset 2, on dit « Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. » Donc, si on est davantage préoccupé par les réalités de Dieu, on va être moins attiré, moins tenté par toutes les choses que ce monde a à nous offrir. Et on sait que dans notre siècle, là, il y en a des choses qui peuvent nous tenter, des choses qui sont faciles d'accès, très, 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 très faciles. Donc, comme je disais, une bonne compréhension de ce qu'est le ciel, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et dans l'histoire, les chrétiens qui ont fait le plus pour l'Église, qui ont fait le plus pour le monde, c'est ceux qui avaient une plus grande vision de ce qu'avait l'autre côté. Okay? Donc, ceux qui pensaient plus au monde à venir ont fait de grandes choses pour le monde présent. Regardons Paul, regardons C.S. Lewis, regardons plein de prédicateurs qui ont fait beaucoup de choses pour le Seigneur, et leur cœur était vraiment avec le Seigneur au ciel. Et pour revenir au jeune homme riche, une petite parenthèse, aujourd'hui, il n'a plus son trésor. Hein? Il est mort, il n'a plus rien. Et qu'est-ce qu'il y a au ciel? Si on ne sait pas le reste de l'histoire, de son histoire, si ce n'est pas converti à Jésus-Christ, il n'a pas reconnu ses péchés, il n'y a plus aucun trésor, ni sur la terre, ni au ciel. S'il avait donné son trésor sur la terre, il y en aurait un au ciel. Et j'ai une citation ici d'un missionnaire, il s'appelle Jim Elliot, il a été tué en 1956, il était missionnaire auprès des Oka, pas Inca, Oka, en Équateur. Et voici qu'est-ce qu'il a dit, une citation qui est célèbre. Il dit « Sage est celui qui renonce à ce qu'il ne saurait garder pour obtenir ce qu'il ne saurait perdre. » Donc, il dit qu'on est sage si on renonce à des choses qu'on ne peut pas s'accrocher parce qu'on va les perdre, mais en échange, on a des choses qu'on ne pourra jamais perdre. C'est ce qu'il veut dire. Donc, je vais la relire. « Sage est celui qui renonce à ce qu'il ne saurait garder pour obtenir ce qu'il ne saurait perdre. » Donc, il est faux de croire que nos pensées au sujet du ciel n'ont aucune incidence sur notre vie ici-bas. Okay? Nos fois ou nos doutes au sujet de la réalité du ciel vont avoir une influence sur la plupart de nos décisions et sur nos valeurs. Je vous donne un exemple. Madame Barbara Walters, un journaliste qui a interviewé des gens en leur demandant à quoi ressemble le ciel et qui peut y aller. Elle a fait des interviews, rencontré des gens là-dessus. Et dans l'édition de Reader Digest de décembre 2005, on rapporte un témoignage d'une personne. Elle a rencontré un jeune musulman dans une prison en Israël, prison sécurité maximale. On se doute pourquoi il était là. Il a essayé de faire sauter une bombe, de se faire sauter dans une ruelle bondée de personnes, dans une foule. Ça n'a pas marché, il s'est fait arrêter. Et la madame Walter lui a demandé « Pourquoi tu as fait ça? » Son idée, qu'est-ce qu'on lui avait mis dans la tête? C'était qu'il serait un héros. Et les héros au ciel, les héros musulmans au ciel, ils ont un peu tout ce qu'ils veulent, dont principalement des relations sexuelles à volonté avec des vierges sur des beaux canapés soyeux. Il y a des rivières de lait et de miel. C'est ça qu'on leur met dans la tête s'ils se font sauter. Ils font sauter du monde. Donc, sa vision du ciel a changé sa vie. Faux. Donc, les choses fausses ou vraies qu'on croit au sujet du ciel, ça va changer notre vie. Et les musulmans croient aussi que bon, s'ils sont au ciel, ils vont être servis, ils vont être dans des beaux jardins somptueux et tout ça. OK? Je crois que les chrétiens vont l'être aussi dans le paradis. OK? Donc, conception du ciel a amené ce jeune-là à vouloir poser un geste grave. Conception du ciel amène des choses à faire le bien ou le mal. OK? Donc, le ciel peut révéler des motifs bien plus puissants qu'on peut l'imaginer, soit en bien ou en mal. La conception du ciel change ma vie. Si je vis uniquement pour le monde présent, c'est que j'ai aucune conception du ciel. On parle du ciel. De quel ciel il s'agit ici? Parce que des fois, on dit, le ciel est dégagé. Le ciel est ennuagé. On ne parle pas du même ciel. Hein? Donc, on va regarder quelques exemples. Parce que Paul parlait du troisième ciel, lui-là. Là. On va regarder le prochain verset. La Bible nous parle au moins de trois ciels. Dans Genèse, chapitre 8, verset 2, c'est lorsque Dieu a arrêté le déluge. Ça dit, « Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, la pluie cessa de tomber. » Ici, il s'agit du ciel atmosphérique, à peu près où sont les nuages. Quand on regarde un peu les nuages, là, c'est peut-être 5 à 10 kilomètres autour de la Terre. Ça, c'est le ciel atmosphérique. C'est ça qu'on voit. C'est de là que vient la pluie, la neige. Okay? La prochaine diapositive, Ésaïe 55, 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. » On arrête là. Donc, d'où ce qu'elle vient, la pluie et la neige, elle vient des cieux. Jésus venait du ciel aussi. Il ne venait pas des nuages. Okay? Donc, ici, on parle des cieux. Qu'est-ce qui est immédiatement au-dessus de nos têtes? Ça, c'est peut-être parler le premier ciel. Ensuite, plus loin que ça, il y a la voûte céleste, l'espace interplanétaire, là où sont les étoiles. On va aller voir un autre verset dans Genèse 5:5. C'est Dieu, l'Éternel, dans l'Ancien Testament, qui parlait à Abraham. Puis qu'est-ce qu'il lui dit? Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Donc, il était rendu plus loin ici. Le ciel, c'était les étoiles, c'était le firmament, c'était tout les astres, l'espace interplanétaire. Soleil, lune, étoiles, galaxies. Un autre verset dans les psaumes. Peux-tu faire avancer? OK. « Quand je regarde tes cieux, c'est plutôt les cieux, là, j'ai fait une erreur, les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies ou créées. » Donc, la lune, l'étoile, il appelle ça les cieux, la voûte céleste. Ça, c'est... Puis ensuite, il y a la maison de Dieu. On voit que Dieu habite dans les cieux. Est-ce que Dieu habite dans les planètes? Est-ce que Dieu habite dans les nuages? Dieu habite dans les cieux. On ne peut pas établir un lieu. Donc, le ciel de Dieu, c'est là où Paul est allé. Le verset qu'on a lu tantôt dans 2 Corinthiens, il a appelé le troisième ciel, il a appelé ça le paradis. Ce sont des synonymes, c'est les mêmes endroits dans le texte. Donc, c'est là le vrai ciel. Et le brigand sur la croix, quand Jésus lui a dit « Tu seras avec moi dans le paradis », c'était aussi c'est le ciel. On peut aller un autre verset. Ici, on parle du ciel où demeure Dieu. « Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras en ce lieu et où tu sièges, dans les cieux. Tu écouteras et tu pardonneras. » Donc, où tu sièges, Dieu siège dans les cieux. Donc, c'est là où Dieu va règne, là où Dieu contrôle l'univers. On peut aller voir le verset suivant, hein, les psaumes. 33, 13 et 14. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Donc, c'est la demeure de Dieu. Les cieux, c'est là que sont sa demeure. Puis il nous regarde du haut des cieux. C'est là qu'est sa demeure. Regardons un autre verset dans Matthieu, dans le Notre Père, dans Matthieu 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc, la Bible, il y en aurait des versets, là, des multitudes, là, où on voit que Dieu est au ciel. Dans Matthieu 24, on n'a pas de verset, mais on voit que c'est la demeure des anges aussi. Ils sont dans le ciel. Dans Jean 3, quand Jésus parlait à Nicodème, il parlait de lui comme étant le Fils de l'homme descendu du ciel. OK? Donc, c'est de là que Jésus venait. Donc, le troisième ciel, c'est la maison de Dieu. L'endroit où Jésus est allé nous préparer une place. Quand il va revenir nous chercher, on va avoir cette place-là. Ce n'est pas un petit cocon, là. Un petit coin, un petit cubicule. Ça va être spécial qu'est-ce que Jésus nous prépare. Donc, c'est qu'est-ce que Paul parle dans l'Épître aux Corinthiens. As-tu le temps? OK. On va le lire un petit peu plus attentivement, le livre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. On va... Verset 2. On reprend le texte. « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans. » Donc, si ça faisait 14 ans, ça veut dire que Paul avait eu le temps d'y réfléchir. C'était pas arrivé en deux toasts là, le matin, puis là, il partageait ça. OK? Ça faisait déjà 14 ans, il avait réfléchi. C'était quoi que j'ai vécu là? OK? Ravi jusqu'au troisième ciel. Ici, c'est pas ravi dans le sens de ravissement, mais c'est ravi dans le sens de... Il s'est fait enlever. Lorsqu'on parle de ravisseur. C'est comme si c'était contre sa volonté. Il était ravi. C'est comme s'il n'y avait pas le choix. Ravi ou jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Donc là, Paul, il ne sait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Supposément, si Paul avait été sur la terre, il y avait une fenêtre ouverte dans le ciel, puis là, il aurait vu des choses. Là, il aurait vu, je suis sur la terre, puis là, je vois le ciel là-bas. Là, il aurait dit, oui, non, j'étais sur la terre, puis c'est une vision que j'ai eue, j'étais encore dans mon corps. Mais là, c'était tellement réel que Paul ne sait pas si Saint-Esprit l'a pris, puis l'a amené au ciel, physiquement, ou c'était juste son esprit qui est allé. C'était tellement réel que ça faisait comme s'il était allé. Peut-être c'est ça qui est arrivé aussi, peut-être c'est pas ça, mais qu'est-ce qu'il a vu et entendu là-bas, c'est comme s'il était en personne au ciel. Okay? Mais il dit, je le sais pas, mais Dieu le sait, puis c'est ça qui est principal. Pas besoin de le savoir, là, je sais pas si c'était dans mon corps ou seulement en esprit, mais Dieu le sait, c'est ça qui est principal. Verset 3, et je sais. Bon, il y a des choses que je sais pas, mais il y a des choses que je sais. OK? Verset 3, « Et je sais que cet homme, encore, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. » Verset 4, « fut enlevé dans le paradis. » On voit en haut, « ravi au troisième ciel, ici, enlevé dans le paradis. » D'après les commentateurs, ça serait la même chose, au même endroit. Donc, ça prouve qu'il est enlevé. Le paradis, le troisième ciel, là, c'est deux expressions qui c'est le même endroit. OK? Enlevé dans le paradis. Et le mot enlevé ici, dans l'original, c'est le même mot que lorsque c'est mentionné dans 1 Thessaloniciens qu'on va être enlevé. L'enlèvement de l'Église, c'est le même mot. Donc, c'est le même mot pour enlèvement dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Nous serons tous enlevés. C'est le même mot que Paul a employé ici. Donc, il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Des paroles ineffables, c'est quelque chose qui est indescriptible. Si j'ai une joie ineffable, ça veut dire j'ai une joie là, je ne peux pas la décrire tellement c'est grand. Ça dépasse les paroles que je pourrais avoir. Je ne suis pas capable de la décrire, puis si même je voulais, je n'aurais même pas le droit de le faire, qu'il n'est pas permis à un homme. Donc, Paul n'avait même pas le droit de dire ce qu'il avait entendu, mais même il n'était pas capable. Et Paul ici, il ne dit pas qu'est-ce qu'il a vu, hein, il dit juste qu'est-ce qu'il a entendu. Il a entendu des choses, puis pour lui, c'était suffisant ce qu'il avait entendu, c'était beaucoup. Et Paul ne raconte pas l'histoire d'un être de lumière, puis d'un tunnel, puis bien-être, puis tout ça. Peut-être qu'il a vécu ça, on ne sait pas. Mais non, il n'était pas style mort clinique, là. Mais... il est allé dans le paradis, puis il a entendu des choses ineffables. Il ne dit même pas qu'est-ce qu'il a vu. Peut-être qu'il n'était même pas capable de le dire, parce qu'il a sans doute vu des choses. OK? Il est vraiment resté low profile dans sa description, mais il dit que lui, il en a eu une vision. Puis il dit, s'il faut se glorifier de quelque chose, moi, je vais me glorifier de tout ça, par rapport aux autres qui se glorifiaient pour dire qu'eux, il y avait la vérité. OK? Pourquoi est-ce que Paul a vécu ça? Les commentateurs disent qu'ils croient que c'est pour renforcer sa foi, parce que Paul allait vivre beaucoup, beaucoup d'épreuves. Fouetté, lapidé plusieurs fois. Donc, pour qu'il garde le focus sur la vie éternelle, il fallait le paradis, il fallait qu'il sache jusqu'à un certain point qu'est-ce qu'il y avait là-bas, qu'est-ce qui l'attendait. Et comme Jésus qui a enduré la croix en connaissant le résultat que ça apporterait, Paul a pu subir toutes les souffrances, l'emprisonnement, en sachant que le paradis, là, il n'y a rien qui peut comparer à ça, c'est indescriptible. Et qu'est-ce que je vis actuellement? Il appelait ça des légères afflictions. C'est rien comparativement au poids éternel de gloire qu'il va y avoir. Et John MacArthur, il le dit comme suit dans son commentaire sur l'Épître aux Corinthiens. Dieu lui a peut-être accordé de vivre cette expérience personnelle pour l'armer de courage en prévision des souffrances qu'il connaîtrait lors de ses voyages missionnaires. Ayant eu un aperçu du ciel qui l'attendait, il pourrait endurer courageusement les souffrances les plus terribles qu'il serait appelé à affronter chaque jour de sa vie. Donc, de ça, sa vision du ciel l'a tenu dans ses difficultés et ça lui a permis d'avoir du courage. C'est pour ça qu'il disait là, dans Corinthiens, « Ne perdez pas courage. » OK? Maintenant, en attendant que le Seigneur vienne nous chercher ou en attendant qu'on aille au ciel, savez-vous qu'on n'est pas loin du ciel? Je suis peut-être à 5 minutes du ciel. Je ne sais pas. Si j'ai une crise cardiaque ou... On ne sait pas à quelle distance on est du ciel. Ça peut être 10 ans, 5 ans, mais ça peut être un accident d'auto ou en allant travailler ou en retournant chez nous. On est peut-être plus près du ciel qu'on le pense. Donc, c'est pas loin. C'est vraiment pratique et réel lorsqu'on parle du ciel. Et ce matin, on a parlé du ciel. Est-ce que je dis, bon, là, je m'assois sur mon salut, je suis sauvé, puis bon, on va attendre qu'il revienne. En attendant, ben, on fait notre vie comme tout le monde, là, sans trop penser à Dieu. Bon, on est sauvé. Hein? On est sauvé. C'est pas comme ça que l'apôtre Paul a écrit ses épîtres en disant, ouais, vous êtes sauvé, mais pour faire quelque chose. OK? Donc, est-ce que je prends les décisions dans la vie et je fixe mes priorités avec une vision d'éternité en pensant au ciel, au paradis, ou bien c'est uniquement terrestre, mes décisions. Parce que je vais rencontrer Jésus-Christ face à face. C'est ça qui va être le plus beau de toute l'éternité. Est-ce que ma vie sur terre, est-ce que ça change ma vie sur terre, ça? Est-ce que mes décisions sont plus en fonction de ce que ça va me rapporter ici plutôt qu'au ciel? Est-ce que je prends mes décisions en fonction du trésor que je vais avoir là-bas, la louange qui m'est réservée, en fonction des gens que je peux amener au Seigneur? Est-ce que je prends mes décisions en fonction du service que je fais pour Dieu, de l'influence que je peux avoir sur les gens, des gens que je peux aider? Est-ce que c'est ça qui est plus important pour moi ou c'est ma petite vie? Quelles sont mes priorités? Pour connaître mes priorités, dans le fond, c'est je regarde là où sont le plus mes pensées. Ce qui occupe mes pensées, ce sont mes priorités. Et ce qui occupe le plus de mon temps, ce sont mes priorités. Souvent, on n'a pas le choix. C'est sûr qu'on met beaucoup de temps à travailler. Mais en dehors du travail, qu'est-ce qui occupe le plus de mon temps, de mes pensées? Le but du diable, pour les croyants comme pour les non-croyants, c'est de nous donner, mettre des œillères, pour qu'on voit juste ce qu'il y a en avant, qu'on ne voit pas plus large que ça. Mais Jésus, lui, veut. Il est la lumière, il veut qu'on voit davantage les réalités visibles comme les invisibles, et il veut que notre vie sur terre soit changée par cela. Donc, ce matin, je vous invite à demander au Seigneur, chacun pour vous, de vous rendre davantage conscient de votre nouvelle citoyenneté, citoyenneté céleste. Que Dieu nous donne une vision éclairée de la vraie vie, qui nous aide à vivre comme des citoyens du ciel, non pas comme des citoyens qui pensent juste aux choses du monde, qui nous aide à fixer nos priorités et nos décisions en fonction de notre nouvelle identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nos décisions doivent être prises en fonction de cela. Si vous voulez, on va avoir un mot de prière et j'invite l'équipe de louange à s'approcher. Notre Dieu, nous ne voulons pas vivre comme s'il n'y avait que cette vie sur la terre qui comptait. Et Seigneur, nous avons vécu une nouvelle naissance, nous sommes ressuscités avec toi, nous sommes les citoyens du ciel. Et Seigneur, nous voulons vivre avec toi, nous voulons vivre comme tu veux qu'on vive. Et Seigneur, on te prie d'ouvrir les yeux de nos cœurs, de notre intelligence, afin qu'on puisse vraiment comprendre les réalités célestes qui nous sont souvent inconnues ou obscures. Seigneur, à travers la lecture de ta parole, aide-nous à comprendre, Seigneur, des choses qui vont nous soutenir et fais que la lecture de ta parole soit comme une parole vivante, que ça puisse nous vivifier, nous rapprocher de toi, Seigneur. Et pendant cette semaine qui vient, on te prie de nous soutenir, nous garder et de nous aider à avoir les yeux tournés vers toi. Et on prie dans le nom de notre cher Sauveur Jésus-Christ. Amen.